Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À partir de demain et jusqu'à lundi, vont être dispersées au Palais de la Bourse à Paris la fabuleuse collection d'Hélène Martini, comprenant de nombreux costumes des grandes revues des Folies Bergères. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Des idées de plumes, de strass et de paillettes, des idées de cabaret, de music hall. Monsieur Trenet, c'est à vous.
Moi, j'aime le music hall. Ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col.
Oh, on aime le music hall sur Europe 1.
Et, oui.
Et vous avez beaucoup d'invités cet après-midi d'ailleurs.
Oui, hein. À commencer par Jacques Pessis, la mémoire du music hall en général et des Folies Bergères en particulier. Aimée Librizzi qui a dansé aux Folies, elle est aussi avec nous. Et puis les commissaires priseurs de la grande vente de la collection Martini. Je suis enfin allé rencontrer hier Madame Hélène Martini, une légende vivante qui a accepté de répondre à mes questions. Demandez le programme, Julia, ou plutôt ne le demandez plus puisque vous l'avez.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ici est né le music hall dans ce qui avait été, sous le nom de Colonne d'Hercule, le magasin d'un marchand de lits, figurez-vous. Sommier, matelas, édredon à tous les étages. Un signe peut-être. Un certain Louis Montrouge s'est laissé fasciner par l'afflux à Paris de foules avides de plaisir, des foules attirées par l'exposition universelle de 1867. Alors, il transforme le magasin en théâtre, sur le plan d'un théâtre lyrique, on aura l'occasion d'y revenir, et c'est ainsi que voit le jour, au printemps 1869, c'est-à-dire avec un peu de retard sur ce qui était prévu, les Folies Trévise, c'est leur nom à l'époque. 1869, reconnaissons que l'époque, en dépit des derniers feux de la fête impériale, est mal choisie, car un an plus tard, c'est la guerre contre la Prusse, c'est l'écroulement du régime et le siège de Paris, et puis la Commune. Les Folies Trévise ne retrouveront leurs artistes et leur public que pour les fêtes de fin d'année 1871, avec tout de même un grand orchestre sous la baguette d'Olivier Métra. Olivier Métra, ça nous dit plus grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la coqueluche des Parisiens et des Parisiennes, c'était l'homme des polkas et des mazurkas. L'année suivante, le théâtre devient Folies Bergères, nous y voilà, 13 lettres qui bientôt enflammeront Paris, feront sourire la France, feront rêver le monde. Ce n'est pas encore tout à fait du music hall en tant que genre à part entière. Pour le moment, le spectacle tiendrait plutôt, si vous voulez, du cirque frontal, matinée d'attractions foraines avec les nains, les sœurs siamoises et la valeur de serpents. Ce qui très tôt, disons-le, va faire la fortune et la sulfureuse célébrité des Folies Bergères, c'est le fameux promenoir. Alors qu'est-ce que c'est que ce promenoir des Folies Bergères ? Eh bien, c'est cette sorte de galerie circulaire qui embrasse le parterre et l'orchestre et où l'on croise facilement de jolies dames pas trop difficiles. Un théâtre où l'on peut circuler, parler, fumer, rire tout en gardant un œil sur une scène distrayante mais sans obligation, si c'est pas épatant, comme on disait à l'époque. Une certaine pénombre, une certaine bousculade aimable et partout des miroirs pour désorienter le badaud et faire tourner les têtes, le promenoir des Folies devient vite l'endroit où les gens du monde eux-mêmes viennent s'acoquiner au demi-monde, au quart de monde parfois. D'année en année, de revue en revue, les Folies gagnent en splendeur, de l'or, du velours rouge, des plantes, des fontaines et même des fauteuils indépendants sur plusieurs rangées le long de l'avant-scène. Le lieu est mûr pour accueillir un nouveau genre de spectacle, un genre qui va avoir sa cohérence et qui va fonder les germes d'une nouvelle noblesse du spectacle. Après un passage à vide où la grande salle, toujours cette vocation lyrique rentrée, devient une salle de concert, les Folies sont rachetées par des cabaretiers de haut vol, les Allemands, c'est leur nom, c'est pas leur nationalité, monsieur et madame Allemand, propriétaires notamment de l'Eldorado. Ils confient les revues à leur neveu, Édouard Marchand, et cette fois, c'est la révolution que nous attendions. À l'automne 1886, les affiches portent ce titre volontairement provocateur. Place aux jeunes du grand spectacle novateur de qualité autour de vedettes populaires, de numéros de grande classe. et de femmes, bien entendu, 15 années durant. Tant que la santé suivra, Monsieur Marchand va inventer, peaufiner, pousser jusqu'à sa plénitude, jusqu'à son plein épanouissement, un type de spectacle appelé à se répandre assez vite dans toute l'Europe, que dis-je, dans le monde entier, le music hall. Je vous l'ai dit, le music hall est né ici. En 1918 s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire des Folies Bergères sous l'égide de Paul Derval. Retenez bien ce nom. Le music hall change sensiblement de nature. On peut dire que c'est devenu maintenant le moment, l'heure est venue des revues à grand spectacle avec effets scéniques, débauches de décors qui changent sans cesse, des costumes, des plumes, du strass. Le spectacle tourne désormais autour d'une troupe de girls, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne aussi, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Les girls des Folies vont devenir paradoxalement le modèle des petites femmes nues que l'on vient voir de loin. Dans les années folles, plus de soirées endiablées sans une séquence femme nue. La revue des Folies Bergères, qui accueille de très grandes vedettes, devient incontournable. En 1926, Paul Derval s'offre, si j'ose dire, Joséphine Baker en provenance de son Amérique natale. La revue s'appelle La Folie du jour, un titre en 13 lettres, ce qui n'est pas un hasard. Monsieur Derval était superstitieux. Il exigeait que les titres des revues comportent toujours 13 lettres et le mot folie, au singulier ou au pluriel. La tradition va se maintenir, elle va se perpétuer jusqu'à nos jours. La dernière des grandes revues des Folies Bergères s'appelait Folies en folie.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec Franck aujourd'hui sur Europe 1, nous sommes au cœur du music hall, au cœur du cabaret.
Moi j'aime le music hall, chantait Charles Trenet pour ouvrir cette émission que nous consacrons aux Folies Bergères. Il y en a un autre qui aime le music hall, moi aussi hein, pour tout vous dire, c'est Jacques Pessis que je suis très heureux d'accueillir. Bonjour Jacques,
bonjour,
merci
Franck
d'être des nôtres pour parler de ce qui a été, disons-le, non seulement le temple, mais le creuset du music hall parisien.
Oui, et de la revue, c'est-à-dire qu'en 1886, quand les nouveaux directeurs prennent en main, il dit qu'il faut une revue. Et à l'époque, il y a un journaliste du Figaro qui écoute aux portes, qui s'appelle Georges Grison, qui entend la conversation, et une heure plus tard, il arrive en disant « J'ai une idée, je vais vous écrire une revue ». Et c'est comme ça qu'est née la première revue. Et finalement, c'est quand Paul Derval est arrivé ensuite que les Folies Bergères ont pris leur véritable dimension.
Ah oui, oui.
Paul Derval, il s'appelle Alexis Pitron, c'est un comédien qui est devenu l'adjoint de Raphaël Beretta, le directeur, et qui prend la suite. Et là, il va vraiment inventer...
On est là au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il va vraiment inventer les Folies Bergères, mettre beaucoup de moyens, perdre beaucoup d'argent, gagner ensuite beaucoup, mais avec une rigueur de travail comme on n'avait jamais vu. C'est-à-dire les girls, on les attend à la sortie, on vérifie qu'elles ne partent pas avec le premier milliardaire venu, et on travaille. Et les revues en 13 lettres, c'est lui qui va les inventer, et ça va devenir une tradition, et la seule fois où il ne va pas inscrire 13 lettres, eh bien, la revue va être un échec.
Alors, ce qui est très important à souligner, c'est que d'emblée, on est bien dans une salle de spectacle. On a l'image parfois des Folies Bergères comme une sorte de cabaret où on serait, comme du reste à l'orchestre du Moulin Rouge, assis à des tables où l'on peut dîner, etc. C'est quand même, c'est une salle de spectacle, mais dans laquelle figure ce fameux promenoir.
Ce promenoir, oui. La tradition voulait que les messieurs qui venaient à Paris pour quelques jours pour des congrès aillent faire un tour au promenoir.
Alors ça, c'est fin 19e, hein, c'est avant.
Le grand désespoir des femmes. Mais en même temps, à l'époque, c'est fini. C'est un véritable spectacle avec plus de 1000 personnes tous les soirs. On utilise même le tour du premier étage pour faire danser les filles. Et quand on connaît les sous-sols du Folies Bergères, c'est absolument hallucinant. Il y a une machinerie incroyable pour l'époque, et quand une revue est créée, c'est un investissement colossal. Et à plusieurs reprises, Paul Derval ne va pas dormir la nuit en disant comment je vais payer tout ça le lendemain.
C'est ça, bien entendu. Alors, est-ce qu'on peut dire que le genre du music hall est né vraiment ici?
Un certain genre de music hall est né ici. D'un côté, il y avait l'Olympia. L'autre côté, le Moulin Rouge, c'était des revues avec des tableaux.
Là, c'est le cancan, la tradition.
Voilà. Et là, c'est une véritable revue avec des personnages. Songez qu'en 1911, à l'affiche des Folies Bergères, il y a dans le même spectacle Maurice Chevalier qui débute, un acrobate qui vient des États-Unis qui s'appelle W.C. Fields, et la troupe des mimes de Fred Carnot avec deux débutants qui font des sketchs, Stan Laurel et Charlie Chaplin.
Oh là 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 là,
vous imaginez?
Et d'où vient finalement la célébrité des Folies Bergères par rapport à d'autres salles de spectacle? D'où vient le fait qu'elles se sont confondues avec l'idée de Paris, de la vie parisienne et des spectacles légers?
parce qu'à l'époque, il y avait les moyens de faire monter sur scène beaucoup de gens avec des décors somptueux, signé Garmati, signé RT, et parce qu'à l'époque, le monde entier venait voir Paris Ville Lumière. Il était de tradition de venir, il y avait le Moulin Rouge, il n'y avait pas encore le Lido, mais il y avait les Folies Bergères. Et on venait passer une soirée pour voir les petites femmes de Paris qui étaient sur scène et qui levaient la jambe.
Alors quand vous parlez d'RT, de Garmati, là on est dans une période un peu plus proche de nous, évidemment.
Garmati, il a duré 55 ans en Folies Bergères.
Oui, c'est ça qui est incroyable.
Il a commencé de façon incroyable. Ça a été le scénariste, metteur en scène, costumier. Il arrive à Paris, il vient de Hongrie. Il veut réussir dans le métier. Et Paul Derval ne veut pas le recevoir. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il dessine un jour sur le trottoir,
devant la salle,
un décor. Malheureusement, il pleut. Il recommence le lendemain. Paul Derval descend furieux, lui nettoyer avec une serpillière le trottoir, mais le reçoit quand même. Et il va devenir le grand Manitou des Folies Bergères.
Ça sera vraiment l'homme des petites femmes des Folies, pour le coup.
Oui, et moi, je me souviens, à la fin de sa vie, il devait avoir 90 ans. Il était là tous les soirs.
Il est mort en 1996.
Voilà. Et il était là tous les soirs au fond de la salle. Et il regardait le spectacle pour vérifier que chaque détail collait, même un spectacle qui existait depuis plusieurs années.
Alors, nous avons la chance, cher Jacques Pessis, d'avoir dans ce studio quelqu'un qui a bien connu M. Garmati. Et d'autres, bien entendu, puisque vous avez, vous, dansé sur la scène des Folies Bergères. Ça, c'est extraordinaire. Bonjour, Émilie Brizzi.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre qui est passionnant, je le dis. Ça s'appelle Folie, donc au pluriel, bien sûr. Folie, raconte-moi, où vous établissez une sorte de dialogue avec cette salle mythique, avec cette scène, et où vous racontez vos propres souvenirs. C'est très émouvant. Quel souvenir avez-vous de ce grand Manitou, comme vient de nous dire Jacques Pessis?
Moi, quand je suis rentrée aux Folies, j'avais même pas 18 ans. Et c'était en 1968. Et j'étais encore sous la direction de Madame Paul Derval. Et quand je suis rentrée...
Qui était donc la veuve de Monsieur Derval, qui était mort 2 ans plus tôt.
Voilà, Tania Derval, qui venait de Marseille.
C'est ça.
Voilà. Et quand je suis rentrée dans ce grand musico, je me suis dit, plus jamais je le quitterai. Effectivement, ça a été une grande histoire d'amour de 42 ans. 21 ans danseuse, 21 ans agent d'accueil. Et quand j'ai quitté la scène, le 28 juin 89, c'était une grande souffrance.
Eh bien, cette histoire d'amour qui a l'air de se finir mal, mais en fait non, ça finit, c'est poignant, mais ça finit bien, vous allez voir, je vous propose de la revivre ensemble dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Avec vos invités aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Émilie Brizzi, qui a passé 42 ans aux Folies Bergères comme danseuse. Également avec nous, Jacques Pessis, bien connu des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle qu'il est journaliste, écrivain, historien des musicals.
La mémoire vivante du musical est avec nous dans ce studio sur Europe 1 aujourd'hui. Merci beaucoup Jacques Pessis de nous faire partager cette passion que vous avez pour tous ces spectacles et pour ce qui a été de grands moments de vie, disons-le. Et nous recevons Émilie Brizzi qui donc vient de publier, enfin a publié, devrais-je dire, chez L'Harmattan, Folie, raconte-moi, qui sont, on peut dire, vos souvenirs, vos mémoires de scène, en quelque sorte. Mais vous ne vous arrêtez pas là, vous racontez par la même occasion toute l'histoire des lieux. Vous décrivez la danseuse des Folies dans sa loge. Alors ce sont des loges où chacune n'a à peu près qu'un mètre carré, il y a 10 danseuses.
Même pas un mètre carré, c'est tout petit comme ça.
Devant son miroir, écrivez-vous. Elle fait le bilan de ses nuits, de ses jours, de sa vie. L'image qu'elle reflète n'est pas toujours flatteuse. Elle regarde son visage. À 18 ans, elle le trouve très beau. L'œil est vif et la peau lisse. Il a l'éclat insolent de la jeunesse. À 25 ans, elle remarque la fatigue des nuits blanches passées auprès de ses enfants et se dit « c'est passager ». À 30 ans, l'éclat de ses yeux a changé. Il est un peu plus triste. Les premières rides font leurs apparitions et les cernes sont plus fréquents. À 30 ans, la danseuse se dit « je suis au sommet de ma forme ». Elle a acquis le métier et l'art du maquillage. Ses enfants ne l'empêchent plus de dormir et elle est bien dans sa peau. À 39 ans, le jour de sa dernière, le regard est triste. Il a perdu son éclat, il a perdu son soleil et ses pupilles ne se dilatent plus de plaisir. Sa peau est fatiguée et les sillons des rides au coin de ses yeux sont un peu plus profonds. Pour la toute dernière fois, la danseuse va se maquiller, s'habiller et danser. La danseuse, on peut dire qu'elle est, Jacques Pessis, l'âme des Folies Bergères.
Non seulement l'âme, mais c'est quelqu'un qui travaille pratiquement 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 sur scène, mais qui doit travailler en coulisses, faire des répétitions de danse, avoir une vie difficile, mener une revue, travailler une revue, il n'y a rien de plus compliqué au monde.
C'est à la seconde, bien entendu.
Et moi, je suis plein d'admiration pour Aimé, parce que d'abord, il y a peu de Françaises qui ont dansé aux Folies Bergères. ça a été un véritable... On prenait beaucoup de danseuses à l'étranger. Et il y a eu des meneuses de revue qui ont vraiment travaillé pendant des années, réussi. L'exemple le plus frappant, c'est Liliane Montevecchi, qui a démarré dans les Branquignoles de Robert Derry, qui est devenue meneuse aux Folies Bergères, qui ensuite a réussi aux États-Unis en ayant même un Oscar, un Award... pour Nine, qu'elle avait joué. Et donc, les Folies Bergères est en même temps une école fabuleuse pour les danseuses.
Alors, Emily Brizzi, est-ce qu'il y a... J'ai senti une larme perler dans vos yeux lorsque j'ai évoqué cette fin de la danseuse qui est à son dernier maquillage. Est-ce qu'il y a une revue qui vous a plus marqué que d'autres? Est-ce que vous avez des souvenirs qui sont plus forts?
La revue Folie, je t'adore, oui, a été un tourbillon.
C'était quelle année, ça vous... On peut...
C'est la troisième, ça doit être...
On est au milieu des années 70.
Oui, voilà, c'est la première, elle faisait 68-72, l'autre 72-77 et l'autre 77-80.
Mmh. Oui, mmh. Il fallait 5 ans pour amortir, une revue.
Et cette revue, Madame Martini, a invité un nombre incalculable de vedettes. On est passé par Norma Duval, on est passé par une japonaise, Lisette Malidor, Betty Swidding. Donc on a eu, à chaque fois, on faisait des tableaux pour elle, ce qui veut dire que dans cette revue, c'est un véritable... Moi j'ai tous les programmes, et quand j'ai voulu reclasser pour mes propres books, j'ai passé un temps infini, parce que on a toujours un Venise, on a toujours un grand tableau, voilà. Ils portent pratiquement le même nom, les costumes sont différents, mais à moins vraiment d'avoir le tableau pour la japonaise, ou le tableau pour Bertis, ou le tableau pour Norma, espagnole et tout ça, mais je dois dire qu'on a eu là un échantillon extraordinaire de vedettes, et ça a été la plus belle revue pour moi, parce que c'est long, 5 ans, toujours la même chose, et là, on avait, c'était la cerise sur le gâteau, tout le temps on avait encore à voir, quoi.
Alors, ces cartons de décor, ces cartons, ces dessins, devrais-je dire, ces photographies, tous ces souvenirs des différentes revues, et bien entendu, les somptueux costumes qui, à eux seuls, valaient le voyage, véritablement, ils sont au cœur de la vente aux enchères dont on parlait tout à l'heure, et sur laquelle on reviendra à la fin de cette émission. C'est un événement, évidemment. Vous disiez, Jacques Plessis, il y a 5 minutes, qu'il fallait plusieurs années pour amortir les coûts, l'investissement d'un tel spectacle.
C'était 5 ans minimum, et les costumes valaient une fortune. Ils étaient réalisés dans les ateliers sous la direction de Madame Martini et puis de ses prédécesseurs. Et chaque détail, on ne pourrait plus imaginer des costumes aussi bien faits avec de telles matières aujourd'hui, c'est impossible.
Alors le nom de Madame Martini affleure dans vos réponses. Il faut que nous parlions d'Hélène Martini, l'impératrice de la nuit, personnage extraordinaire.
Écoutez, elle vient de Pologne, elle a perdu sa famille, elle a échappé à la guerre. Elle arrive à Paris en 1937. Et en 1937, avec une amie, elle va voir la revue des Folies Bergères, dont la tête d'affiche est Nita Raya, qui est à l'époque la femme de Maurice Chevalier. Et puis, il y a un casting, comme on ne dit pas encore à l'époque, et elle est engagée.
Une audition.
Elle est engagée parmi les mannequins, et pendant plusieurs mois, elle va danser aux Folies Bergères, se déplacer, se mouvoir, avec une grâce formidable. Et puis, elle rencontre un monsieur dans une librairie de parisienne du quartier Saint-Germain-des-Prés, monsieur Martini. Elle va l'épouser, et plus tard, monsieur Martini va vouloir lui offrir les Folies Bergères. Malheureusement, il meurt avant, et pour exaucer son vœu, elle va racheter les Folies Bergères en 1974.
Et elle en sera la propriétaire pendant très longtemps, jusqu'à
l'année dernière. Elle a tenu le choc, elle a ensuite arrêté les revues parce que c'était plus possible, mais elle a vraiment, moi je me souviens, j'allais la voir le soir aux Folies Bergères, elle arrivait au bureau en début d'après-midi, et le soir elle terminait au Rasputin, elle
était son cabaret, oui,
devant une tisane et un carré de chocolat, et elle me racontait l'histoire des Folies Bergères.
Elle est tout à fait extraordinaire, cette Madame Martini, et j'ai eu la chance hier d'aller l'interviewer. Donc nous allons entendre ce que j'ai rapporté avec le petit Nagra. J'étais avec Lorena Martin, bien entendu. Nous avons recueilli les souvenirs d'Hélène Martini. C'est dans un instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
On a juste 16 ans, on y vient en tremblant, Folies Bergères. On hésite primo entre le casino, Folies Bergères. On y voit des femmes nues, on en est tout ému, Folies Bergères.
Maurice Chevalier sur Europe 1 avec Folies Bergères. Je rappelle, Franck, que Maurice Chevalier a débuté dans ce cabaret mythique, c'était en 1909.
Aimé Libritzi a publié chez l'Harmattan Folie, raconte-moi. Vous avez été danseuse aux Folies Bergères. Comment est-ce que vous viviez ce statut, si je puis dire? Vous étiez l'ambassadrice de Paris à vos propres yeux, Aimé Libritzi?
Non, parce que c'est très drôle. Parce que moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 9 ans. Et à l'âge de 9 ans, quand je dansais sur scène et que j'allais à l'école du spectacle, je ne rencontrais que des artistes. Donc moi, je pensais que je faisais un métier normal et que les personnes qui étaient dans les bureaux étaient punies. Et ma grand-mère me disait toujours, si tu travailles mal la danse, tu finiras dans les bureaux. Donc forcément, pour moi, c'était une punition intense. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et quand je suis rentrée aux Folies Bergères, c'était évident, c'était ma place. Donc j'avais trouvé ma place, j'avais trouvé mon théâtre, j'étais bien. Donc j'ai dansé, j'ai fait mes enfants, j'ai rencontré mon mari. Maintenant, je suis une grand-mère et aussi une arrière-grand-mère. Et si vous voulez, je me suis complètement épanouie parce que c'était ma place. Donc, je ne pouvais pas être ailleurs qu'aux Folies Bergères. C'était là que je devais être.
Ça, on le sent très bien. Jacques Pessis, vous aussi, vous avez écrit bien sûr sur tous les grands cabarets et musicals parisiens, mais notamment sur les Folies Bergères. C'était avec Jacques Crépineau. C'est paru en 96. On a du mal à le trouver aujourd'hui.
Mais il est introuvable aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va un jour le réaliser.
Ce que vous mettez en avant, c'est la très grande continuité. Il y a eu très peu, finalement, de grands animateurs, si je puis dire. Finalement, les Folies Bergères, c'est 5 propriétaires et grands directeurs.
Oui, parce que c'est une époque où il fallait durer longtemps et on avait les moyens. Et c'est vrai que Paul Derval a été le recordman. Il a tenu pendant les années, il a tenu pendant la guerre, ce qui n'était pas évident. Parce qu'il fallait aussi, devant les Allemands, essayer de maintenir le cap tout en ne jouant pas la collaboration. Et quand il est mort, Madame Derval...
Ah, le Gay Paris.
Le Gay Paris et les Folies Bergères en étaient un symbole.
Évidemment.
Et Hélène Martini a maintenu la tradition. Elle avait les moyens de le faire parce qu'elle travaillait. Elle avait, c'est une reine des bars de Pigalle et des théâtres de Pigalle. Elle dirige les Folies Pigalle, toujours aujourd'hui, parce qu'il fallait des moyens pour investir dans ces lieux-là. C'était pas évident. N'importe qui aujourd'hui ne pourrait pas reprendre les Folies Bergères.
Imaginez un appartement entièrement décoré, très haut de plafond, assez étonnant, tout près de la place Pigalle, entièrement décoré par RT. Vous entrez dans un univers à part entière. Cet univers, c'est celui d'Hélène Martini. Nous sommes allés avec Lorena Martin l'interviewer hier. Et voilà ce qu'elle nous a dit.
Ce qu'il faut dire en quelques mots à vos auditeurs, c'est que vous êtes né en Pologne, vous avez fui la Pologne à la fin de la guerre, vos parents sont morts pendant la guerre, votre père a été fusillé, votre mère est morte dans un bombardement, et vous arrivez à Paris, à la Libération, et assez vite, vous allez d'ailleurs travailler aux Folies Bergères, comme un signe prémonitoire.
Je m'arrêtais toujours dans un petit hôtel, toujours le même, 8 rue Caillot. Dans la chambrette à côté, habitait la maîtresse de Rigoulot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était l'homme le plus fort du monde. Enfin,
une sorte d'athlète de foire, en quelque sorte.
Alors, elle m'a invitée aux Folies Bergères. Je suis allée d'un mois à l'autre. Ah, mon Dieu, qu'elles sont belles, les filles, elles sont formidables. Je lui ai dit, oh, n'exagérons rien. Je me présente, on m'engage. Chiche, et puis voilà, ce fut fait.
Les hasards de la vie, si tant est qu'il y ait des hasards dans l'existence, vous ont amené à rencontrer M. Martini à quelque temps de là. Alors il faut que vous nous expliquiez ce que cet homme qui allait devenir votre mari dirigeait comme établissement à Paris à l'époque.
Un jour, un maître d'hôtel lui avait conseillé d'acheter un cabaret à lui-même au lieu de dépenser son argent chez les autres. Voilà. Donc il a acheté un cabaret, ici en dessous, qui s'appelait le Pigalle. Et c'est là où je l'ai connu. Voilà.
Donc à l'époque, il ne possède que le Pigalle.
Oui.
Alors parmi toutes ces grandes maisons, il y a eu donc le Pigalle, il y a eu les Folies Pigalle, il y a eu le Sphinx, le Narcisse, le 50-50.
50-50, l'Aiglon, mon Dieu, que sais-je, Sherazade.
Parlez-nous donc de Sherazade, de cet orchestre.
Eh bien, Sherazade, une belle maison, oui, un cadeau de mon mari. Oui, oui. Un jour, une surprise, un cadeau surprise. On prend sa voiture, on y va. Où ? C'est un secret. Nous arrivons. Il m'a dit, voilà, il m'appelait Saddam. Il disait, voilà, madame, tu pourras écouter les cigales chez toi. Ah non, mais c'est un monsieur très bien, il savait vivre. Ça ne court pas les rues.
Votre mari vous a quitté en 1960 ? Et vous vous retrouvez donc à cette époque, très jeune encore, à la tête d'un véritable petit empire de la nuit parisienne.
Oui, mais vous savez, après ce que j'ai vécu, rien ne me fait peur. Hein. Ça, alors là, vraiment, hein, c'est peut-être ça, mon côté fou. Et puis voilà, alors partout, je faisais des revues partout, costumes dessinés par RT, il y avait un orchestre partout. Enfin, on faisait quelque chose de bien, oui.
C'est à ce moment-là que vous revenez, si je puis dire, aux Folies Bergères, mais alors cette fois en tant que propriétaire.
Oui, sur un coup de tête, parce que M. Martigny a toujours voulu m'offrir cette maison, mais je l'ai fait à sa place, voilà.
Vous parliez d'RT, donc qui a été ce dessinateur extraordinaire, un véritable créateur d'univers, disons-le. Vous étiez proche de lui. Nous sommes ici d'ailleurs dans votre appartement qui a été décoré par RT.
Oui, entièrement, oui. Oui, j'aimais beaucoup RT. Je l'ai connu tout à fait par hasard, où il était dans les creux de la vague, si je puis dire. On disait, RT met des pompons partout, il est démodé, vous voyez, des conneries comme ça. Alors donc, il a commencé à me faire des revues dans tous les cabarets que nous venons de citer. Il y avait des revues, et c'est toujours RT qui me faisait des costumes et des décors.
Il y avait aussi le Palladium, le Bataclan, etc., toutes ces grandes maisons-là.
C'est comme la Comédie de Paris, parce que j'avais aussi le théâtre. Oui, j'avais les Bouffes Parisiens, le Mogador, avant les Folies Bergères. Je suis inconsciente, mais ça me réussissait bien.
Alors, on a l'impression, vous allez me dire si je me trompe, mais que les Folies Bergères n'ont pas été le lieu qui vous ont le plus amusé de tous ceux que vous venez de citer.
Oui, vous avez raison, oui. Quand je suis venue là-bas, il y avait toute une équipe de 68 arts, on appelle ça comme ça, oui. Toujours la gueule de travers, vous voyez, tout ça, ce n'est pas mon truc, là. Donc le cœur n'y était pas, oui, pas vraiment. Bon, écoutez, je suis quand même resté 35 ans, non ?
De toutes ces grandes maisons parisiennes, laquelle vous a laissé le souvenir le plus fort, le plus agréable ?
Le Rasputin. Oh, j'adorais cette maison. Nous l'avons créée avec M. RT sur un coup de tête. Oui, j'ai rêvé d'avoir une maison pour pouvoir boire une tasse de thé tranquillement, sans être dérangé, dans une ambiance agréable, ce qui était le cas. Voilà. C'était ma maison vraiment préférée.
Exceptionnelle Hélène Martigny, dont la destinée mériterait, non, j'allais dire une émission, toute une série d'émissions. Un mot sur RT peut-être, juste un mot, Jacques Pessis, cet extraordinaire artiste.
Oui, qui a travaillé...
RTE.
Oui, c'était son pseudonyme. Et il a travaillé jusqu'à l'âge de 97 ans. Il a été un roi des années 30, car il a commencé avec Paul Poiret. Il était l'un des...
Le grand couturier.
Exactement. Et ensuite, il est devenu, au temps des années folles, l'un des maîtres de la décoration. Et Hélène Martigny l'a repéré en 1962 au Folies Pigalle, où elle donnait un spectacle sur les années twist et le rock. Et il a fait des costumes pour Vince Taylor. Et elle a eu le coup de foudre pour ce monsieur. Elle l'a engagé. Il a vraiment tout fait chez elle, y compris, il y a une anecdote incroyable. Il a décoré le Rasputin, qui était un cabaret parisien. Et elle a fait classer le bâtiment. Et quand il y a eu plein de travaux aux Champs-Élysées et qu'il a fallu démolir tout le quartier, le seul lieu préservé grâce à Marie-Dévergine, ça a été le Rasputin. Eh oui.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et mon cher Franck, avec vos invités sur Europe 1, nous revivons les grandes heures du musical.
Nous avons parlé d'RT, ce décorateur, en fait, on peut le dire, hein, finalement, ce dessinateur qui
décorateur,
en même temps,
dessinateur,
et costumier,
tout,
etc. Nous avons parlé de ses somptueux costumes. Tout cela fait l'objet, à partir de demain, d'une grande vente publique qui aura lieu au Palais de la Bourse, parce qu'il fallait un endroit qui soit suffisamment vaste et suffisamment prestigieux pour accueillir la vente. Alors, il y a d'abord l'exposition qui a lieu demain, tout l'après-midi, samedi, toute la journée, et dimanche de 10h à 15h. Et puis la vente elle-même commence le samedi à 18h. Et puis ça se poursuivra ensuite dimanche. Et le retrait des lots n'aura lieu que lundi, tellement il faut arriver à organiser tout ça. Je suis très heureux d'accueillir François Wiedrichowski, qui fait partie de cette étude Bailly, Pommerie et Voutier, qui organise la vente de la collection Hélène Martigny. On va parler d'une vente mythique. Elle est déjà entrée dans la légende.
C'est une vente de folie.
Voilà, c'est ça, exactement. Tout
et on a choisi justement, comme si on faisait une dernière revue, un titre, vente au pluriel de folie, pour avoir les 13 lettres. aussi.
Ah oui, d'accord, vous êtes dans la tradition de M. Derval.
Et c'est vrai qu'il y a plusieurs ventes, donc c'est pour ça qu'on a mis le S, et c'était aussi un pari fou. C'est une folie de réaliser cette vente, parce que quand on est arrivé, et quand on a rencontré Mme Martini, on a dit, banco, on y va, comme ça, sur un coup de tête, comme elle aime. Mais après, quand on a découvert, je ne vous dis pas, c'était alors, pharaonique.
Tout ça, alors quand je dis tout ça, il faut expliquer ce que vous allez vendre déjà.
On va vendre des affiches, des programmes, des costumes.
Jusque-là, j'allais dire, c'est assez classique. Affiches et programmes, ça va plaire à Jacques Pessis et à un certain nombre d'amateurs, mais on est dans une vente relativement classique. Mais alors là, vous nous parlez de costumes.
On arrive aux costumes. Ah oui. Donc on a à peu près de 1974 à 2000 les costumes des différentes revues. C'est 6000 costumes que l'on découvre tout d'un coup.
Le catalogue de la vente, ce sont des costumes, mais dont certains sont d'une somptuosité digne d'un opéra, tout simplement.
Jacques Pessis disait tout à l'heure que c'était incroyable la qualité, mais je peux vous dire que nous, qui faisons des ventes de mode régulièrement, et on a fait des ventes de costumes d'autres, c'est incroyable la qualité, et ça a tenu, ça résiste, et on ne ferait pas ça. Mais les paillettes qui sont incroyables, les strass, les plumes dans un état encore magnifique, des couleurs et une invention, génial.
Avec évidemment tout ce qu'on peut imaginer comme traîne, comme plume, tout ça est extraordinaire.
Et alors, juste, on termine parce qu'il y a les costumes, et après les dessins de M. Germati, créateur. Donc là, on a des vraies compositions
qui donc a
incroyables.
Été l'âme des folies pendant un demi-siècle, hein, disons-le.
Des maquettes, des sérigraphies d'Herté,
oh là là.
Quelques dessins d'Herté, et on termine avec des photos. Là, une partie de la bibliothèque d'Herté, c'est à chaque fois, ça arrivait, c'est magique.
Alors, il y en a combien de ces costumes? Quand je dis costume, ce sont des tenues d'hommes et de femmes.
Et de femmes.
Il y en a d'ailleurs que vous présentez
aussi.
Là en photo par couple, c'est très spectaculaire.
C'est un gros travail, on a dû faire 150 photos, et donc habiller tous les mannequins pour leur redonner de la vie. Il y a aussi des accessoires, des chapeaux, des...
D'un point de vue pratique, vous allez les mettre sur des mannequins pendant les ventes? Oui.
On a 10 heures pour monter une revue. Et
c'est une folie.
C'est une folie. C'est vraiment une folie jusqu'au bout.
Folie
vraiment
jusqu'au
bout.
Là, oui, c'est
et
sûr.
Heureusement, on a été très bien entourés parce que puisque c'était une folie aussi, il fallait retrouver de la documentation, trouver des témoignages. Et donc, Aimé nous a aidés. On s'est entouré de plein de personnes. Donc, ça a créé une émulation. Et c'est toute une revue où il y a. C'est vraiment une revue où au centre est Madame Martini et puis autour, tous ces gens qui participent.
Il y a des costumes qui sont assez légers, pour ne pas dire assez coquins, et puis il y en a d'autres alors qui sont des énormes tenues qu'on n'oserait même pas imposer au pire des empereurs aztèques. Je vois des toques de plumes, tout ça, ça doit peser très lourd, non ?
Ben voilà, moi la première fois qu'on m'a mis une cape sur le dos, c'était pour un tableau de Sherazade, et j'ai plié les genoux, je me suis dit, hein. Et alors moi qui ai des cheveux très courts, on m'a mis des chapeaux d'une hauteur phénoménale qui ne tenait pas. Il a fallu trouver des astuces épouvantables, des bigoudis, des épingles mises au travers pour porter ça, parce que c'est vraiment très lourd. Moi, je fais 1m64. Quand je suis arrivée aux Folies, je faisais tout juste 54 kilos. Et je peux vous garantir que les capes avec des sequins énormes, un tissu lourd et tout ça, heureusement qu'on faisait que défiler. Mais quand il faut monter le grand escalier ou le descendre avec ça, je vais vous dire que nous, les petites danseuses, on a plus de mérite que la vedette, parce que la vedette, elle est au moins, elle est soutenue avec
les
boys.
Elle est portée.
Puisque nous, on n'avait que notre petit corps pour porter ces magnifiques capes. Et je dois vous dire que le grand escalier a été la trouille de ma vie pendant 21 ans, ce qui représente
sans jamais une marche manquée, disons-le.
Vous savez, pas une marche manquée, mais pas loin quand même.
François Wiedrichowski, on voit l'exposition commence demain, c'est bien ça, hein ?
L'exposition commence demain. Elle
donc au Palais Brongniart à Paris, hein, à la Bourse.
Voilà, et elle ne dure que 2 heures vendredi, parce qu'il faut installer tout ça. On commence à 7 heures du matin jusqu'à 16 heures.
Mais vous ne craignez pas les queues sur les trottoirs, vous allez avoir du monde, à mon avis.
Est-ce que ça va être à prix abordable? C'est la bourse, à porter toutes les bourses.
Ah, voilà. Ça dépendra des enchérisseurs, par définition. On imagine le monde qui devait travailler pour une revue comme ça et dans un tel cabaret.
Des centaines de personnes.
Ah,
et moi, je me souviens des coulisses des Folies Bergères. Il y avait chaque fois une ville entière pour travailler sur chaque costume, sur le maquillage. Et les filles travaillaient énormément, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seconde de perdu.
Merci infiniment, Jacques Pessis, d'avoir été des nôtres. Je renvoie tous vos ouvrages sur le music hall, bien entendu, et vous savez que la porte est grande ouverte. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir très bientôt. Merci, Emily Brizzi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Folie au pluriel, raconte-moi. Ça a été édité chez l'Armatan en 2008. Et puis, donc, on peut voir cette vente aux enchères de l'étude Bailly, Pommery et Voutier demain au Palais de la Bourse. Demain, samedi, dimanche, et on retirera les lots lundi.
Et le 13 aussi.
Et le 13 aussi.
Très important, la vente de stock.
C'est dit. Merci beaucoup.
Merci.